L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Raize automatique à partir de 3900 francs seulement.
Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Nicolas.
Retour ce matin sur l'adoption par le Congrès du plan de réforme budgétaire, sociale et fiscale. Et pour en parler, vous recevez le porte-parole du gouvernement.
Oui, notre invité du matin, c'est Christopher Gilles. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter notre invitation pour revenir effectivement sur cette séance du Congrès un peu mouvementée qui a permis l'adoption de justesse du plan de réforme budgétaire, sociale et fiscale. Alors comment résumer ce plan ? En fait, c'est un ensemble de mesures destinées à assurer à la fois la relance de l'économie et le redressement des finances publiques.
Oui, c'est exactement ça. Et c'est un plan qui permet surtout de débloquer la seconde tranche du prêt accordé par l'État et qui nous permet à la fois aux collectivités de continuer à pouvoir passer des marchés publics, qu'on puisse continuer à avoir un financement du dispositif de maintien dans l'emploi et de retour vers l'emploi et des différents dispositifs sociaux. On est sur un plan surtout où on a voulu pas augmenter la pression fiscale. Je crois que ça n'a pas été assez dit pendant cette séance. On a été dans une logique de non-augmentation de la pression fiscale pour les Calédoniens, puisque les Calédoniens aujourd'hui sont dans une crise économique, une crise de pouvoir d'achat, et donc on ne voulait pas alourdir cette partie-là. Donc on a souhaité à la fois prendre des mesures de relance économique, de relance par l'investissement avec des grands chantiers, de soutien avec une baisse de l'impôt sur les sociétés qui doit être accompagnée sur plusieurs années, et surtout une logique d'économie à la fois dans l'administration calédonienne, puisqu'on a un certain nombre de directions ou d'établissements qui doivent être fusionnés, qui doivent être rationalisés, et également dans le système de la santé où aujourd'hui on ne peut pas continuer comme avant.
Alors justement, oui, ce plan prévoit environ 20 milliards d'économies d'ici 2028. Où est-ce que vous allez les chercher, ces 20 milliards ?
Je crois que la Calédonie a vécu ces dernières années sur un niveau de vie qui était déjà surélevé par rapport à ce qu'on pouvait faire. Aujourd'hui, on voit sur des mesures d'économie, quand j'entends qu'on fait un braquage social en mettant 100 francs sur une boîte de médicaments ou 500 francs sur des déplacements en ambulance non prioritaires. C'est des mesures qu'on aurait dû faire il y a bien longtemps. Aujourd'hui, on les met en place, mais même sur la question des économies, sur le nombre d'agents qu'on a dans les différentes collectivités calédoniennes, aujourd'hui, c'est des vraies économies. Et je vous le dis, on a été vraiment dans une logique, nous n'allons pas augmenter les impôts. Et je crois que c'était quelque chose qui était inacceptable par les Calédoniens, d'avoir une augmentation de la TGC, une nouvelle augmentation de la CCS. Ça aurait été mal compris. Et donc, on a décidé d'abord de faire des économies, et Dieu sait qu'il y en a à faire, je vous l'ai dit, dans l'administration calédonienne, dans le système de santé, avec la numérisation du système de santé, comme on veut faire à la mise en place d'un dispositif type carte vitale, où on est en capacité à la fois de suivre les personnels médicaux, à la fois de suivre le trajet du patient. Là, on est en capacité de faire des économies qui sont importantes.
Mais tout de même, on vous reproche, et on l'a entendu dans le débat l'autre jour au Congrès, des diminutions en matière de logement, en matière d'aide sociale, en matière de santé. Vous assumez tout ça ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ce soit les plus défavorisés, finalement, qui en soient les victimes ?
Vous savez, si on ne fait rien, il n'y aura plus d'aide au logement, il n'y aura plus de RUAM, il n'y aura plus d'allocation familiale, il n'y aura plus tout ça. Puisque l'État a été très clair et l'État a montré que quand on n'était pas en capacité de faire les réformes, il ne payait pas derrière. Quand nous n'avons pas fait la réforme de la TGC, ils nous ont pas versé les 9 milliards. Quand on a pas suivi les recommandations sur le pacte nickel, les 20 milliards qui devaient être mis sur la filière nickel, ils ne les ont pas versés non plus. Et on a eu une usine du Nord qui a fermé, une usine du Sud qui est en grande difficulté. Et là, c'est pareil. On a 20 milliards qui doivent être versés par l'État sur la seconde tranche. Et si ces 20 milliards ne sont pas versés, il n'y aura plus de RUAM, il n'y aura plus d'aide au logement, il n'y aura plus tout ça. Donc, on doit faire des efforts sur un certain nombre de choses qu'on assume. Vous savez, c'est beaucoup plus facile de venir devant vous, Madame Noir, et vous dire on va raser gratis, on va augmenter l'aide au logement, on va augmenter les aides sociales. Mais aujourd'hui, on est en responsabilité, on est dans un gouvernement en responsabilité, d'ailleurs, qui a voté ce plan à l'unanimité et qui aujourd'hui essaye de relever la Nouvelle-Calédonie. C'est pas facile, mais aujourd'hui, il y a des choses positives qui avancent.
Oui, en défendant ce plan, Thierry Santa, qui l'a préparé, en fait, qui est l'un de ceux qui l'a préparé au sein du gouvernement, a répété à plusieurs reprises qu'il n'y a plus un rond dans les caisses de la Nouvelle-Calédonie. La situation est vraiment catastrophique aujourd'hui.
Ben vous savez, quand vous empruntez 120 milliards à l'État pour boucler votre budget, c'est que oui, la situation est dramatique. Et c'est quand on a 900 entreprises qui ont brûlé, quand on a eu 20 000 personnes qui ont été au chômage ou au chômage partiel, on est dans une situation qui est dramatique, mais qui est loin d'être désespérée. On a des signes de reconstruction, on a des signes de reconstruction d'emploi, mais pour ça, il faut faire des réformes, il faut avoir l'argent de l'État sur le déblocage de la seconde tranche du prêt pour pouvoir continuer à faire ça. C'est aujourd'hui l'argent qui est mis par l'État dans les collectivités va permettre de financer les dispositifs de retour vers l'emploi qu'on a voté récemment, mais également le financement de grands chantiers publics qui permettront de recréer l'emploi. Et donc, en plus, sur ces différentes réformes, on sera sur des réformes qui seront étudiées au cas par cas et donc qui pourront être amendées. Vous savez, sur la question des allocations familiales, on était sur une baisse des allocations familiales. On a prévu une baisse des allocations familiales pour un certain niveau de revenus. Donc on adapte, on fait évoluer, mais le but c'est que la Nouvelle-Calédonie puisse se réformer.
Alors le débat a été très vif au Congrès, on y faisait allusion, certains vous ont reproché un braquage social, on a parlé d'attaque contre les plus défavorisés, de politique très libérale. Est-ce que vous avez été surpris par cette offensive d'un certain nombre de groupes politiques au Congrès ?
Non, parce que c'est venu de Philippe Gomès en particulier. Je crois que Philippe Gomès a 30 années de démagogie derrière lui. Donc je crois que on n'était pas du tout surpris. Mais ce que j'ai indiqué tout à l'heure, quand Philippe Gomès nous a expliqué qu'il fallait lutter contre le pacte social et surtout pas répondre aux diktats de l'État, qu'il fallait lutter...
Au pacte nickel.
Oui, au pacte nickel, pardon. Qu'il fallait lutter contre la réforme de la TGC parce que nous allions imposer à l'État ce que nous voulions en Nouvelle-Calédonie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le résultat des courses, c'est qu'on a des usines qui ferment et pas de 9 milliards dans les caisses de la Nouvelle-Calédonie. Je crois que Philippe Gomès a été un des fossoyeurs de la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, si on en est là dans la situation financière de la Nouvelle-Calédonie hors émeute, il porte une part de responsabilité qui est très importante. Donc je crois qu'il y en a surtout qui sont en responsabilité, il y en a qui sont en démagogie.
Alors c'est la création d'un comité de suivi qui en toute fin de séance a débloqué la situation. Concrètement, c'est ce comité de suivi qui va suivre la mise en œuvre du plan auprès du gouvernement. Les mesures ne sont pas encore adoptées. Ce sont des mesures de principe.
Oui, vous savez, on est dans une logique d'écoute au gouvernement depuis le début de la présidence d'Alcide Ponga. On l'était avant aussi avec Louis Mapou, avec le PS2R. On a fait, et sous l'égide de Thierry Santa, 6 séminaires au Congrès. Moi, j'ai fait presque un mois de discussion avec les partenaires sociaux sur l'accord économique et fiscal et social qui a été signé avec la très grande partie des partenaires sociaux. Ces discussions, elles vont se poursuivre, elles doivent se poursuivre, elles se poursuivent encore cette semaine avec les différents partenaires sociaux. Le gouvernement ne va pas imposer un plan qu'il a décidé tout seul. On n'a pas de majorité tout seul. On doit discuter avec la société civile, on doit discuter avec les membres du Congrès, mais par contre, l'immobilisme, ce n'est pas possible.
Oui, mais justement, ce que les Calédoniens ont peut-être de la peine à comprendre, c'est que ce plan de réforme, il avait été adopté au gouvernement à l'unanimité, il y a peut-être une abstention, ou à l'unanimité en tout cas. Pourquoi un tel revirement quand les textes arrivent au Congrès? Est-ce que c'est gérable?
Parce que la politique s'est mise dans ce plan. Enfin, au niveau du gouvernement, on est resté sur une logique vraiment de responsabilité qu'on devait avancer sur ce plan de réforme. L'Union calédonienne a décidé de suivre la politique qu'ils ont sur l'accord de Bougival et donc de voter contre tout, que ce soit sur à la fois contre l'accord de Bougival lui-même et les textes économiques. Philippe Gomez, qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, a décidé de s'immiscer au Congrès alors que Philippe Dunoyer avait été particulièrement constructif en commission. Donc de la politique politicienne sur ce genre de sujet. Quand il s'agit de pouvoir payer justement des prestations sociales, des prestations familiales et un système de santé, c'est particulièrement irresponsable.
Alors, vous le disiez, l'adoption de ce plan, c'était aussi une condition au versement par l'État de la deuxième tranche du PGE, le plan garanti par l'État. Est-ce que vous avez l'assurance maintenant que cette deuxième tranche va être effectivement versée ?
Ben, il va falloir, hein. Parce que les discussions qu'on peut avoir, qui sont rudes avec les élus du Congrès, elles sont tout aussi rudes avec l'État. Maintenant, on a rempli les conditions qui étaient de le vote d'une délibération qui portait trajectoire sur le plan de réforme. Donc il faut maintenant que l'État réponde à ses engagements.
Ah, c'est Claire Durieux, la directrice de la mission interministérielle, hein, qui suit ces dossiers. Elle a quitté la Calédonie, elle était satisfaite. Vous avez eu des retours de sa part, vous avez pu échanger avec elle?
Elle était très inquiète du fait que le plan ne puisse pas être voté. On a réussi à faire voter ce plan à quelques voix près. Donc il faut vraiment que maintenant on va avoir une visio avec Madame Durieux cette semaine. C'est pas parce que les parents Nouvelle-Calédonie qu'on ne se parle pas. Et donc il faut que maintenant l'État puisse assumer les engagements qui ont été pris. La Calédonie a besoin de ce financement. Mais vous savez, ce plan de réforme, il n'est pas que pour l'État, il est aussi pour nous. La Calédonie, elle a besoin de se réformer, elle a besoin de faire des économies. On a trop d'agents publics, on a trop de structures qui parfois font la même chose. Et donc, et sur le système de santé, il faut qu'on ait un suivi qui soit beaucoup plus renforcé.
Vous ne craignez pas également ici la protestation d'un certain nombre de syndicats? On a vu déjà les syndicats de fonctionnaires protestaient contre les mesures de ce plan?
Non, moi je salue surtout la responsabilité des partenaires sociaux. J'ai l'occasion de voir la plupart d'entre eux régulièrement tous les mois, toutes les semaines pour travailler avec eux. Il y a des choses qui sont compliquées où on peut échanger. Là, on avait que la Fédération des fonctionnaires qui manifestait, hein. On n'avait pas les autres syndicats. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a des choses qui sont compliquées, mais on a une vraie responsabilité des partenaires sociaux aujourd'hui, et je pense que c'est par le dialogue qu'on va pouvoir continuer à avoir cet engagement ensemble sur ce plan.
Dans un autre domaine, le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, arrive demain soir en Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce que vous attendez de cette visite?
Deux choses. La première chose politiquement, c'est qu'il tienne le coup. Enfin, qui tiennent ses engagements et qui tiennent la ligne de l'accord de Bougival qui permet de donner de la visibilité à la Nouvelle-Calédonie. Je vois qu'il y en a d'un côté qui crient Kanaki, Kanaki, Kanaki et qui ne parlent pas du tout du coût de la vie, du pouvoir d'achat, de comment on donne un travail à la population. Et donc il faut que Manuel Valls, vraiment, et c'est ce qu'il est en train de faire, et ses derniers communiqués vont dans ce sens, qui permettent de donner de la visibilité à la Nouvelle-Calédonie. Et sur la partie économique, l'accord de Bougival est une très bonne chose, mais la partie économique est un peu light sur les différentes mesures, et qu'on puisse lancer la partie pacte économique pour donner aussi de la visibilité économique sur des nouvelles filières, sur le nickel, sur l'énergie, et que la Nouvelle-Calédonie puisse enfin avancer.
C'est prévu pendant ce voyage qu'il y ait également un approfondissement du volet économique?
Oui, on va échanger sur tous ces sujets en tout cas.
Christopher Jugès, porte-parole du gouvernement. Merci d'avoir accepté votre invitation.
Merci.